Le langage et l'image. 1936. Jacques Lacan est psychiatre. Il est en analyse, il a 35 ans. Il écrit pour la première fois sur la psychanalyse. Il ne s'intéresse pas à ce que Freud appelle la métapsychologie, la théorie de l'inconscient et des pulsions. Non, il écrit sur ce qu'il appelle l'expérience psychanalytique, ce qui se passe dans la séance entre un sujet en analyse et l'analyste. Il prétend en donner une description phénoménologique. La phénoménologie est à l'époque la philosophie d'avant-garde. Elle inspire Heidegger. Le jeune Sartre se rend en Allemagne pour l'apprendre aux meilleures sources. Il en nourrira L'être et le néant qui paraîtra en 1943. Lacan lui-même a publié une thèse de psychiatrie d'inspiration phénoménologique. Dans le passage que vous allez entendre, il veut donner de l'expérience vécue d'une psychanalyse une simple description, épurée de tout préjugé théorique. C'est alors, dit-il, qu'apparaît un rapport si simple qu'il semble qu'il se dérobe à la pensée.
Le donné de cette expérience est d'abord du langage. Un langage, c'est-à-dire un signe. De ce qu'il signifie, combien complexe est le problème. Mais le psychanalyste, pour ne pas détacher l'expérience du langage de la situation qu'elle implique, celle de l'interlocuteur, touche au fait simple que le langage, avant de signifier quelque chose, signifie pour quelqu'un. Par le seul fait qu'il est présent et qu'il écoute, cet homme qui parle s'adresse à lui. Et puisqu'il impose à son discours de ne rien vouloir dire, il y reste ce que cet homme veut lui dire. Ce qu'il dit, en effet, peut n'avoir aucun sens. Ce qu'il lui dit en recèle un. C'est dans le mouvement de répondre que l'auditeur le ressent. C'est en suspendant ce mouvement qu'il comprend le sens du discours. Il y reconnaît alors une intention, parmi celles qui représentent une certaine tension du rapport social. Intention revendicative, intention punitive, intention propitiatoire, intention démonstrative, intention purement agressive. Poursuivons la décomposition de l'expérience. L'auditeur y entre en situation d'interlocuteur. Ce rôle, le sujet le sollicite de le tenir implicitement d'abord, explicitement bientôt. Silencieux pourtant, et dérobant jusqu'aux réactions de son visage, peu repéré au reste en sa personne, le psychanalyste s'y refuse patiemment. N'y a-t-il pas un seuil où cette attitude doit faire stopper le monologue? Si le sujet le poursuit, c'est en vertu de la loi de l'expérience. Mais s'adresse-t-il toujours à l'auditeur vraiment présent, ou maintenant plutôt à quelque autre, imaginaire mais plus réel, au fantôme du souvenir, au témoin de la solitude, à la statue du devoir, au messager du destin?
D'emblée, on voit apparaître chez Lacan deux versants, le langage, l'image. Du côté langage, l'analyse est avant tout interlocution, mais non pas exactement dialogue. Le patient monologue, l'analyste est l'auditeur silencieux qui ne prend la parole que pour de rares interventions qui interprètent les propos du locuteur. Mais du fait de la position inhabituelle, spéciale, calculée qu'adopte l'analyste, le patient tend invariablement à s'adresser au-delà de l'auditeur présent à un autre imaginaire et par là, il révèle l'image ancienne, infantile, qui s'est en lui imprimée.